putain, là, c'est vraiment beau. Normalement, à cette heure-ci, il fait vachement jour, quoi. À 8h20 en été. Et enfin, fin juin, quoi. Et là, tous les réverbères de la place sont allumés parce que le ciel est complètement noir. Donc, sous les feuillages verts, tous les réverbères là allumés. La façade de l'église également éclairée, comme s'il faisait nuit. Le ciel est noir, tout se déplace, hein. Les nuages se déplacent très rapidement, les feuilles volent. Ah, c'est extraordinaire. Un temps d'apocalypse. D'habitude, on dit la nuit tombe. Là, on dirait la nuit qui se lève, quoi. C'est quelque chose de superbe. J'ai pas pu partir. Bon, je vais prendre la pluie sur la gueule en rentrant, mais c'est impossible de, c'est impossible de pas regarder ça, quoi. Ah, voilà. Un temps d'apocalypse, ça serait bien. Putain, la fin du monde, mais dans la beauté, quoi. Qu'est-ce que je vais prendre sur la gueule en rentrant? Allez, salut.
Alors, je suis militaire français et j'écoute ton émission sur le Rwanda. Alors, tu juges que les militaires ont refusé et ont même participé au génocide? Est-ce que c'est ça relativement scandaleux? Est-ce que, dès que l'armée française l'a pu, elle a protégé les petits contre les Hutus, et les Hutus modérés contre les Hutus extrémistes? Et quand elle a passé, elle a reçu l'ordre de l'État civil, du gouvernement civil et de la présidence, qui je crois était, la présidente c'était Mitterrand, je crois. Et qui voulait pas qu'on aille dans les zones pour protéger les Tutsis. Alors comme d'habitude, eh ben on reporte la faute sur l'armée française. Et après, quand on ose accuser les militaires français de viol, de meurtre, etc., et qu'on donne la parole toujours aux gens qui sont contre l'armée française et non pas à des militaires français qui étaient sur zone, je trouve ça vraiment exagéré. Cela me peine, mais que je suis vraiment surpris, enfin vraiment. Parce que depuis que les années passent, et c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Donc, pour ceux qui y étaient, c'est encore plus dur, parce que eux, ils savent ce qu'ils ont fait. Et des fois, ils ont la mort dans l'âme d'avoir abandonné une population, mais ils n'ont pas pu faire autrement, parce que le gouvernement civil français n'aura pas donné les moyens de faire autrement. Et dès qu'ils ont pu, ils ont protégé, ils ont même abattu des génocideurs. Donc ça, on oublie de le dire. Voilà. Donc, merci de diffuser éventuellement mon message. Au revoir.
Salut, c'est Bernard de Haute-Loire. Je téléphone suite à l'émission d'aujourd'hui, le 28, sur le Rwanda. J'ai passé 3 années au Rwanda, de 90 à 93. Bon, et évidemment, on entend des militaires qui disent que leur chef n'était pas au courant. Depuis 91, nous avons dénoncé un petit peu ce qui se passait au Rwanda, parce que des militaires français se trouvaient sur les barrages à contrôler l'ethnie sur les cartes d'identité. Et bon, rien n'a été fait, on le disait, évidemment, d'après les ambassadeurs, que on ne connaissait rien à la politique. Nous vivions près de la frontière du Burundi, la commune Nyakizu, et on avait vu des listes de massacres qui étaient déjà établies à partir de 1991. Donc on vient de pas nous dire qu'on ne savait pas ce qui se passait au Rwanda. Depuis 91, déjà, il y avait des gens qui s'étaient un petit peu soulevés contre ça. Voilà, et puis faisons attention à la Côte d'Ivoire. Salut.
Voilà, deux témoignages contradictoires sur le répondeur de la base J'y suis. Suite aux deux émissions d'hier et d'avant-hier, le reportage de Guy Vanctil à Bicécéro au Rwanda, où on l'a dit et redit, il y a une responsabilité française sur ce qui s'est passé il y a maintenant 11 ans au Rwanda. Et on voit que chacun a sa version des faits, et c'est dire à quel point il est nécessaire que des vraies enquêtes soient menées pour essayer de faire toute la lumière sur ces événements-là, comme sur l'ensemble des implications de la France au Rwanda dans le génocide du Rwanda. Aujourd'hui, avec Olivia Gesbert, on va partir à Perpignan. Vous savez tout ce qui s'est passé à Perpignan ces semaines dernières. Ça a fait le bruit que l'on sait, clan contre clan, gitan contre arabe, arabe contre gitan, la municipalité mise en cause, etc., etc. On a voulu revenir calmement, avec un, on espère, du recul dans ces quartiers de cette ville qui a été pendant quelques jours la proie de tensions et de haines terrifiantes. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, et j'y suis. J'ai couru, j'ai un peu étouffé. Au 01 56 40 37 37.
Bonjour, alors nous ouvrons ce journal aujourd'hui sur France Musique avec une très bonne nouvelle. Ça y est, le site de Cadarache est retenu pour le nucléaire. On a gagné contre les Russes, on est content. Eh ben, c'est dégoûtant. Oh là 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 là. Moi, voilà tout ce que j'ai à dire. Je suis effondrée qu'une chaîne française commence son journal comme ça pour dire ça. On est des millions à pas être d'accord. Et puis voilà. Bon, ben, salut quand même.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à toute ton équipe. J'ai écouté ton émission sur la région grenobloise des Crouls, touchée par le phénomène de délocalisation. C'est quand même lamentable, hein, cette prise de pognon constante. Hein. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout le monde est touché, tout le monde, que ce soit du plus haut cadre au plus petit opérateur, puisqu'aujourd'hui on a des opérateurs. Mais ça marche aussi pour les entreprises d'économie sociale, comme les Mutuelles de France en Isère, qui se permettent aussi de délocaliser la production en Chine, et qui n'hésitent pas à licencier dans leur propre laboratoire. Il faut savoir qu'à Grenoble, il y a quand même beaucoup de gens qui circulent avec la prothèse fabriquée made in China. Ça aussi, c'est pas très très normal, il me semble. Enfin bon, je souhaite courage à tous les gens concernés par ce problème, et surtout à tous ceux qui vont en subir les conséquences directement, et ce, d'ici peu. Allez, bonne journée. Au revoir.
Je voudrais vous remercier pour votre soutien par rapport à ce phénomène qui fauche désormais les cadres moyens et supérieurs français par rapport aux répondeurs que j'ai entendus tout à l'heure. Contrairement à ce que l'une des auditrices a semblé exprimer ensuite, je ne crois pas du tout qu'il y ait lieu de se réjouir de ce phénomène. Au contraire, je crois qu'il est très inquiétant le fait que le chômage ou l'inemployabilité touche désormais également les cadres supérieurs, me semble être le reflet de la nouvelle gouvernance financière et même boursière du monde de l'entreprise d'aujourd'hui, et le signe que la France et l'Union européenne telle qu'elle est construite à ce jour, ultralibérale, détruit ainsi également ses emplois hautement qualifiés, donc ses forces créatrices et locomotrices à forte valeur ajoutée, au détriment de sa capacité d'innovation et de haute compétitivité commerciale, technologique, mondiale, en se séparant de ses ingénieurs, en se séparant de ses cadres commerciaux supérieurs. Ce sont les seuls qui ont une capacité de réflexion stratégique, qui sont capables d'avoir une vision de leur marché respectif et qui ont donc la capacité de concevoir de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouvelles structures commerciales qui entraînent tout le monde derrière. Ce que les dirigeants d'entreprise n'acceptent plus de faire parce qu'ils sont obnubilés par la réduction des coûts et la maximalisation des profits immédiats. Donc aujourd'hui, les cadres supérieurs commencent à être décimés en raison tout simplement du coût de leur qualification. C'est un signe au contraire gravissime, me semble-t-il, de la mauvaise santé de notre système de gouvernance. Simplement, je pense que nous sommes tous dans la même galère, que cette galère se charge de plus en plus, donc je ne nie pas, et je suis moi-même révoltée par les problèmes, les phénomènes de délocalisation et de suppression d'emplois à tout va. Je pense qu'il faut, j'y vois là moi le signe, les signes d'une alerte, d'une nécessité de tous se mobiliser, se fédérer autour de cette problématique qui veut que l'humain, de manière générale, l'employé, le salarié est devenu une variable d'ajustement financière, un produit financier qui permet un ajustement boursier. Voilà, bonsoir.
Merci.
Je pense que ce sont des Arabes qui ont... Non, ou l'inverse. Ce sont les Gitans, non? Ce sont les Gitans qui ont évidemment tué à coups de barre de fer un Arabe, évidemment, voilà.
C'était inévitable. c'est un peu morose hein, au centre-ville. Hein. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien dans cette région. Il n'y a pas d'industrie. Comme je vous dis, il n'y a rien. Il y a des boulots saisonniers, mais en hiver, il n'y a rien qui se passe. Alors bon, on peut pas prendre tout le monde. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Hein.
Non, ce qui est inquiétant à Perpignan, c'est que même dans la journée, avant, on ne les voyait pas, ils restaient dans leur quartier. Et maintenant, quand on est en ville et qu'on circule, on voit des hordes de gitanes et de gitans. Moi, un jour, je rentrais dans un salon de thé et j'ai dû laisser la truie, il est sorti cette rue gitan. Des hommes, mais qui sortaient d'un salon de thé. Ça ne se voyait pas avant. Quand je prends la rue Lucia qui va à la place Cassagne, on se croirait au Maroc. Okay. Hein. Alors toutes les boutiques ont été transformées. Et
il y a plus rien. Avant, il y avait encore quelques Français. Avant, maintenant,
ils gagnent la rue des Augustins. Chaque fois qu'il y a un magasin qui s'ouvre, c'est des Arabes. Mais enfin, moi, ils m'ont jamais. Non. Moi, je n'ai jamais eu un problème.
Mais c'est vrai que ça fait peur. On appréhende quand même de sortir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Olivia Gesbert, la fête de la musique à Perpignan.
Flight number 2, arriving from.
Alors, vous êtes Jean-Louis Olive,
oui.
Sociologue notamment.
Ethnologue surtout, oui.
Ethnologue surtout. Vous êtes basé sur Perpignan, hein.
Oui.
Là, je crois qu'on entre dans le quartier Saint-Jacques.
Tout doucement, oui, par la rue qui sert de communication. Oui.
Vous avez parlé de l'université, je sais pas quoi,
ouais,
là. Ouais, vous avez dit ça, que les gitans étaient avant les Arabes.
Ils devaient
partir.
On partira pas, monsieur.
Et moi, c'est mieux qu'on parle.
On partira pas, monsieur.
Non, je l'entends, tu vois, je l'ai
vu.
Il a dit que
les gitans étaient.
Attends, il a dit que. Attendez, je vais vous dire moi ce que vous avez dit. Vous avez dit que les gitans, ils étaient dans l'époque d'avant et que nous, les Arabes, en fait, on était venus qu'avec le groupement familial et qu'après, on a ramené toute la famille. Attends, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il a dit que les gitans, ils étaient là, ça fait longtemps. C'est vrai que les gitans, ils étaient avant nous.
Ils
sont obligés. Parce qu'ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de pays, c'est normal.
Depuis 6 siècles.
Voilà,
c'est beaucoup.
C'est normal.
Mais il y a 1000 ans, il y avait des Arabes ici aussi.
Voilà. Et vous avez dit que les Arabes, en fait, ils sont venus que les vieux quand ils ont travaillé. C'est vrai, ça? Nos grands-parents et tout. Et qu'après, en fait, ils ont ramené avec le groupe familial, ils ont ramené toute la famille.
Voilà.
Mais il vous a pas dit de partir.
Ça, c'est...
Non, c'est pas lui qui l'a dit de partir. C'est l'autre, là, le raciste, là, le maire. C'est lui qui l'a dit de partir. Mais non, lui, il a dit que les gitans, ils étaient avant.
On n'a pas dit de partir. Nous, on aime les Perpignanais comme ils sont, on veut les garder comme ils sont. Perpignan, c'est une ville
arabe,
colorée.
Que ce soit gitan, que ce soit marocain, que ce soit turc, espagnol.
C'est ce qui fait la personnalité de la ville, c'est ce qui fait son charme. Et on veut le garder comme ça.
C'est pas tout le monde qui parle comme vous, monsieur. Elle le mérite comme ça. C'est pas tout le monde qui parle comme vous.
Et ben voilà, le reportage est terminé, vous avez tout compris.
Oui, oui, c'est ce qu'on voulait.
On a suivi, comme vous tous, ce qui s'est passé à Perpignan, ces deux meurtres, ces journées d'émeutes, ces pressions, ces visites, évidemment, du tout neuf, tout nouveau ministre de l'Intérieur, les soupçons, les pressions, les analyses, plus ou moins urgentes, plus ou moins rapides. On a été surtout frappé par un certain nombre de titres dans chez nos confrères, clan contre clan dans l'Express, ghetto contre ghetto dans François, tension entre maghrébins et gitans dans Le Monde, affrontement entre gitans et maghrébins à Perpignan dans Libération. Bref, il y a quelque part en France des gitans qui affrontent des maghrébins ou des arabes et des arabes qui affrontent des gitans. Qui sont ces gens? Sont-ils au moins français? Ces titres et la plupart de ces papiers ne nous le disent pas. Quelques-uns prennent le soin de dire d'origine gitane ou d'origine maghrébine et ces précautions sont, à mon avis, importantes. Et à l'avis aussi de Jean-Claude Olive qu'on vient d'entendre, qui nous a intéressé avec Olivia parce qu'il avait donné un entretien au journal Libération en disant c'est un meurtre qui n'est pas du tout significatif. Alors ça nous a intéressé de voir pourquoi ce meurtre n'était pas significatif. On s'en doutait un petit peu, mais on a voulu aller voir sur place. Pourquoi est-ce que c'est cette minute 17 que vous venez d'entendre dit à peu près tout? Parce que les trois jeunes filles qui interpellent notre sociologue ethnologue qui va sur le terrain, elles ont été très intéressées par ce qu'on a montré, que les médias ont montré de ce qui s'est passé, mais montré d'eux-mêmes aussi, montré de ces deux groupe, on va dire communauté, même si le mot est évidemment prêt à discussion, montrer d'elle-même. Et alors, il y a l'antériorité, c'est-à-dire que les Gitans sont là depuis 5 siècles et les Maghrébins seulement depuis 75. Ah mais non, dit l'ethnologue, il y avait des Arabes ici il y a 1000 ans. On voit des jeux d'identité, on voit des questions qui se posent et qui se posent à qui donc? Aux savants, à l'ethnologue, aux sociologues qui bien trop souvent, bien sûr, travaillent cachés derrière ou protégés par l'écran de son ordinateur ou bien travaillent sur des documents, sur des papiers, loin du terrain. C'était cette confrontation qu'on voulait et c'est cette confrontation qu'on va avoir avec Jean-Louis Olive, donc. Et puis aussi un ami de la base où j'y suis, qui est photographe, qui s'appelle Georges Martelly, et qu'on avait emmené avec nous au Venezuela, si vous vous souvenez, c'était notre traducteur au Venezuela, et qui est un autochtone, comme les autres d'ailleurs, et qui connaît très bien cette ville de Perpignan pour y avoir grandi et pour y promener aujourd'hui son œil de photographe très très pertinent. Voilà, la balade commence. C'était la fête de la musique ce jour-là à Perpignan. Il n'y en eut pas, et pourtant...
Les faits sont maintenant établis. La victime a surpris un jeune en train d'essayer de lui voler sa voiture, un gitan qui a aussitôt appelé du renfort. Une rixe a éclaté, la victime a sorti un couteau et blessé l'adolescent au visage. C'est ensuite qu'il a été poursuivi jusque dans un café par une vingtaine de personnes au total. Barre de fer, club de golf, l'homme a été battu à mort. Les trois jeunes ont reconnu les faits. On est maintenant certain qu'il ne s'agissait pas d'un règlement de compte entre communautés. Henri Castel, le directeur de la sécurité publique.
En aucune manière, il y a un quelconque phénomène raciste qui ait pu jouer à un moment quelconque. La communauté gitane est implantée depuis plus de 3 siècles sur le quartier Saint-Jacques et la communauté maghrébine y a toujours été importante également. C'est le quartier de Perpignan qui est le moins criminogène de toute la ville. Donc on ne peut absolument pas parler de poudrière. Il y a une tension due à un crime horrible, due à des circonstances particulières. Mais ce que nous souhaitons tous très vite, c'est que ces deux communautés recommencent à vivre ensemble comme elles ont su le faire depuis des dizaines d'années.
Elisabeth Badinier, France Bleu Roussillon pour France Inter.
Je suis venue pour ma nouvelle expression qui est l'intolérance entre, j'allais dire, l'indescriptible qui s'est passé, tout simplement, et par rapport à ma communauté, parce que j'ai d'origine algérienne et que j'ai envie de pleurer aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. J'ai pas l'habitude de manifester, mais aujourd'hui, je manifeste parce que j'ai des enfants qui ont le même âge, j'ai des neveux qui ont le même âge. Pourquoi ?
Je suis venu parce que c'est un frère qui est ici pour moi. Même si je suis marocain ou algérien, c'est mon frère. Et c'est pour ça qu'on est là. Si on laisse ça à faire, il y aura d'autres victimes. Moi, ton frère, ton père, ta mère aussi. C'est elle, une victime de gitan. C'est pas que c'est pour faire la vengeance, mais pour montrer qu'on est là pour faire la paix.
Je suis du quartier, je trouve que c'est épouvantable. Un gamin de 28 ans qui est plus là. Qui aime plus, qui voit plus, qui est autant de haine, autant de violence pour gratuite, quoi. Chez Sarré.
On connaît la réponse de notre nettoyeur au Karcher dans ces cas-là. On va essayer, nous, d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire, évidemment, en amont. C'est vrai que ces deux meurtres qui se sont succédés à quelques jours d'intervalle, à 8 jours d'intervalle, ce climat de guerre civile qui a régné dans la ville avec le départ des gens d'origine gitane et puis leur retour, cette cohabitation parfois difficile, parfois harmonieuse, et cette situation très particulière à Perpignan que ces deux groupes, ces deux communautés habitent, sont dans le centre de la ville, alors que la tradition a voulu dans les dernières décennies que les pauvres, enfin les basanés, soient rejetés à l'extérieur. Comme dans certaines autres villes, c'est le cas encore pour Marseille, mais sans doute pour peu de temps, les étrangers ou les gens d'origine étrangère sont dans le centre de la ville, comme c'était le cas dans un certain nombre de villes jadis, où les ouvriers, les prolétaires était dans le cœur même de la ville. C'était le cas dans Paris il n'y a pas si longtemps. Le Marais, aujourd'hui si joli, si touristique et si chic, était habité par des artisans, des ouvriers, etc. Donc c'est le cas toujours pour Perpignan, et on va essayer de comprendre, chemin faisant, calmement, pourquoi est-ce que, je reprends l'affirmation de notre sociologue ethnologue Jean-Louis Olive, pourquoi ces meurtres ne sont pas significatifs.
Les populations les plus fragilisées habitent au cœur de la ville, dans les quartiers historiques. Là, on entre tout doucement dans le quartier Saint-Jacques. On va remonter tout doucement la rue Lucia, qui est un lieu de mixage entre des populations qui sont arrivées à des époques différentes. Mais tout compte fait, cet argument de l'ancienneté, de l'historicité, de l'arrivée des uns et des autres, les Gitans seraient là depuis plus longtemps que les Algéro-Marocains, quelle importance. Ce sont des gens qui vivent ensemble depuis au moins 2 à 3 générations. Et qui ont construit ensemble des liens familiaux, des liens extrêmement structurés.
Il faudrait peut-être qu'on dise pourquoi on est là quand même, parce qu'il y a eu, il y a un mois à peu près,
oui, tout à fait.
Des événements, on dit comme ça ici.
Oui, c'est une manière de ne pas dire, tout en disant, il y a eu 2 meurtres, oui, qui sont échelonnés sur une semaine, le 22 mai, le 29 mai, 2 meurtres qui n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre, et qui n'ont rien à voir aussi avec la transformation médiatique, politique qui a pu en être faite, mais ça j'en dirai peut-être un mot plus tard. Deux meurtres en tout cas qui, bien que ce ne soit que des faits divers au départ, ont littéralement transformé les rapports sociaux dans la ville, et pour certains, le langage qui a été utilisé, ont mis le feu à la ville, hein, l'ont embrasé.
Alors le premier meurtre, c'est un jeune d'origine algérienne, un jeune français d'origine algérienne, Mohamed Beybachir, c'est
Mohamed Beybachir. L'altercation qu'il a opposée d'abord à un gitan, et ensuite à un groupe de gitans qui se sont alliés au premier gitan, c'est une altercation qui n'a rien à voir avec l'origine ethnique, culturelle. C'est une question, je dirais, de petite délinquance qui a tourné autour d'une bagnole, d'un autoradio, d'une place de parking. La bagarre dégénère, il y a un coup de cutter qui est donné, une joue qui est ouverte, et les jeunes gitans le poursuivent. Tout se termine dans le bar qu'on va découvrir un petit peu plus haut. Et contrairement à ce qui a été dit par l'enflure médiatique, hein, si j'ose dire, on a parlé de lynchage, de matraquage, etc. Il y a eu un coup mortel qui a été porté. Ça a été attesté par le procureur. Un coup de barre de fer. Voilà, donc c'est un fait divers qui est triste, qui a attristé tout le monde, mais qui ne devait pas déclencher tout ce qui a été déclenché par la suite.
Le 29 mai, il y a un deuxième meurtre.
Alors, entre-temps, il y a un événement fort, c'est la marche pacifique. Alors, le deuxième meurtre, il se produit pas ici, il n'est pas à Saint-Jacques, il est à Saint-Mathieu, c'est un autre quartier, qui est aussi un quartier défavorisé, moi je préfère dire fragile ou fragilisé, parce qu'on a affaire à des populations qui sont extrêmement paupérisées, qui dépendent pour la plupart d'aides sociales et de subsides de la nation. C'est un meurtre de sang-froid, Ça n'a rien à voir avec la dispute qui a dégénéré et qui a tristement dégénéré dans le café Jamaa el-Afna.
Ce qu'il faut dire, c'est que de ces deux meurtres, la voix médiatique a décrit ça comme une espèce de véritable guerre de tranchées, comme une opposition entre deux clans, entre deux communautés, la dite communauté gitane et la dite communauté maghrébine.
Ouais. Ce qu'on a essayé de mettre en exergue ou de développer à partir des événements de Perpignan, c'est qu'il y aurait du communautarisme tant chez les gitans que chez les Algéro-Marocains. Et en fait, il n'en est rien, puisqu'on est dans une rue où vous avez croisé des jeunes gens d'origine maghrébine, des jeunes gens d'origine gitane, d'ailleurs qui étaient mélangés. Les trois jeunes filles qu'on a rencontrées, avec deux jeunes filles d'origine, enfin dont les parents sont d'origine maghrébine et l'une dont les parents sont des gitans. Et vous voyez qu'elles cheminent ensemble et tout se passe bien. Ouais. Alors que communautarisme renverrait justement à un refus de l'autre, à une différenciation négative de l'autre. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on voit actuellement à Saint-Jacques.
Je suis d'origine catalane de ce qu'on appelle la Catalogne espagnole, tu as raison. Et mes parents sont venus ici après la guerre civile espagnole et se sont installés, comme beaucoup d'autres réfugiés politiques, sont installés dans ce quartier.
Voilà, vous avez reconnu peut-être la voix de l'ami Georges Bartoli, qui est photographe, qui était avec nous au Venezuela, je le répète, et qui est natif natal, non seulement de Perpignan, mais de ce quartier Saint-Jacques, où nous sommes. Et c'est lui qui, avec Jean-Louis Olive, nous sert de guide dans les ruelles de ce quartier, le quartier Saint-Jacques.
La situation se dégrade depuis si longtemps dans ce quartier que tous les éléments étaient en solution pour que ça cristallise à la faveur vraiment d'un petit événement. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une injustice de plus faite à ce quartier.
Pour vous, Jean-Louis Olive, c'est pareil? Ces événements, ils étaient prévisibles ou finalement totalement inattendus?
Prévisibles, oui. D'un point de vue structurel, puisqu'on a des conditions de vie, des conditions de paupérisation, on a parlé d'abandon, on a beaucoup insisté sur ces aspects-là, oui.
Structurel, c'est quoi, la situation économique, sociale?
Oui, bien sûr, c'est les conditions de vie, alors du point de vue physique, hein, c'est la santé, les revenus, le manque.
Alors allons-y précisément, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de chômage, par exemple?
Un taux de chômage extrêmement lourd, voire intolérable dans un pays développé, dans un pays comme le nôtre, jusqu'à
90%. 90% de chômeurs?
Oui. De toute façon, si c'est pas le chômage, c'est des régimes d'allocataires. On dépend de revenus qui sont globalement des allocations ou des combinaisons d'allocations. Tout le reste, de toute façon, va relever d'une économie plus ou moins informelle.
Les derniers emplois aussi qui restent, ce sont les emplois de substitution qui ont été fournis par les collectivités territoriales. C'est-à-dire balayeurs, comme on a vu tout à l'heure, gardiens avec un statut qui n'est pas un vrai statut de policier municipal parce qu'ils ne sont pas sermentés, agents de médiation, on dirait, dans notre ville.
C'était pas comme ça il y a 10-20 ans, non?
Bien sûr que non.
Les métiers traditionnels, c'était
à l'extérieur du quartier, c'était dans les jardins, c'était dans la périphérie de la ville. Puis il y avait aussi une petite économie locale avec des aiguiseurs de couteaux, des rétameurs, des rempailleurs de chaises, et j'en passe.
Vous entendez tout ce qu'il me raconte? Que les métiers traditionnels avaient disparu?
Ben oui, la moitié, les trois quarts de tout ce qu'il y avait comme commerçant, tout ça a disparu. Il n'y a plus rien.
Vous étiez commerçant?
Non. Moi j'étais récupérateur, à ferrailleur.
Ferrailleur pour qui? Pour quelle entreprise?
Non, pour moi-même.
Et vos enfants, ils n'ont pas fait la même chose?
Mes enfants sont jeunes encore. Je ne vais pas les faire travailler. Le mien, mon fils, il a 29 ans.
Donc c'est vous qui bossez encore aujourd'hui?
Aussi malheureusement, oui. Mais là, je ne peux plus bosser, je n'ai pas de voiture.
Vous n'avez plus de voiture? Pourquoi, elle a été brûlée?
Elle a été brûlée. Elle a été incendiée le jour qu'il y a eu les événements. Quoi.
Ah, juste après les événements, elle a été incendiée, votre voiture?
Complètement carbonisée.
Mais votre boulot, c'était ferrailleur encore, juste avant.
Ouais. Moi, c'était un ferrailleur. J'ai toujours vécu dans la ferraille depuis l'âge de 12 ans. Bon, c'est pas maintenant que je vais changer, c'est 38 ans.
C'est un des métiers traditionnels. Donc c'est une des dernières survivances.
Pourquoi c'est plus possible, Jean-Louis ?
Parce que la concurrence sur le métal est impitoyable. Maintenant, ce sont des monopoles qui récupèrent le tissu, le papier, le carton, le métal, et ils sont organisés en très grosses structures qui font que le revenu minimum n'est plus suffisant. Mais c'était effectivement une activité très florissante, et en ville et dans les villages. D'ailleurs, les gitans étaient réputés pour fournir des matériaux, parce qu'on dit ferraille, mais c'est tous les métaux, des matériaux de très bonne qualité, notamment le fil de cuivre, par exemple. Ça se vendait relativement bien.
Votre père, Yves, c'est pareil ?
Non, mon père, lui, il était commerçant, mais il était parti, j'avais 8 ans.
Vous m'avez pas dit comment vous vous appelez ?
Danco. C'est un surnom, oui.
Votre famille, elle est ici, implantée depuis combien de temps ?
Écoutez, le grand-père de mon grand-père, déjà, était à Perpignan. Ils sont ici depuis 1750.
1750 ?
Donc ça fait, pour les dire, 3 ou 400 ans, quoi. Oui, on est français à 100%. Ouais. On est français à 100%.
Aujourd'hui, le cœur de Perpignan porte encore les stigmates d'une nuit d'émeute. Dans les rues du centre-ville, les services de nettoyage de la municipalité s'emploient à essayer d'enlever les dizaines de véhicules calcinés la nuit dernière, les centaines de conteneurs brûlés. Place Cassagne, toujours au centre-ville, une compagnie de CRS reste en poste pour essayer de maintenir le calme. Les Maghrébins se sentent particulièrement visés par leurs voisins gitans de la rue d'en face, Mounir, 32 ans.
On en a marre, vous comprenez, maintenant vous marchez dans les rues, on est capable de recevoir un coup de fusil, on peut plus, c'est dire. Mais maintenant, c'est du ciblé.
En face, justement, la place Puig, le quartier gitan. Ils vivent ensemble dans une caserne réaménagée. Eux aussi se disent victimes. Romuald, un de leurs porte-parole.
On est dans l'angoisse en permanence. On n'a pas.
On n'a pas bougé depuis dimanche dernier qu'on est ici. On n'a pas bougé.
Nous, on demande que la paix.
Ce climat de tension entre les deux communautés reste encore très palpable aujourd'hui dans les quartiers du centre-ville. La police lance un appel au calme. Henri Casté, directeur départemental de la sécurité publique.
Il faut un appel à la raison, un appel au calme. C'est ce qui importe à l'heure actuelle sur Perpignan, parce que la ville n'est plus en état de tolérer ce genre de choses, ça suffit.
La nuit dernière, 37 personnes ont été interpellées après les saccages du centre-ville. Ce midi, la police n'avait procédé à aucune interpellation concernant le meurtre d'hier après-midi qui a mis le feu aux poudres. Perpignan, Stéphanie Mora, Vincent Rodriguez, France Inter.
Pourquoi c'est arrivé
? Ben c'est arrivé à cause d'un petit vol de poste. D'après ce que je oui, attention, d'après ce que j'ai entendu, le propriétaire du véhicule aurait tabassé vraiment fort un jeune. Un homme de 35 ans, je crois qu'il avait, s'est interposé en disant bon, c'est ce qui se fait quoi. Bon. Et l'autre aurait sorti un couteau et lui aurait balafré la joue. Mais assez profondément quand même. Et là, bon, quand on touche un gitan, c'est 58 gitans dessus. Là, c'est la devise. Surtout quand il est blessé, comme il faut, quoi. Maintenant, tu es au coup de poing, les autres, bon, retiennent, ils essaient de séparer, mais quand c'est vraiment des coups mortels.
Il y a un code de l'honneur très strict ?
Non, c'est pas un honneur, c'est une réaction plutôt. Mais là, il n'y a rien mieux à faire. C'était trop profond, quoi. Et vous voyez, quand vous avez une balafre de à peu près 2 cm de largeur, et toute la joue, une fois que je me suis appuyé sur la droite ou la gauche, vous voyez le sang pisser, ça ne fait pas plaisir, quoi. Alors, tout le monde s'y est mis, ils sont tabassés, ils se sont battus. Enfin. Et voilà, ça a fini en guerre générale, quoi.
C'est un règlement de compte ?
Règlement de compte, non. C'est plutôt. Une autodéfense plutôt. parce que lui il s'était interposé pour empêcher qu'il le frappe encore plus. Et bon, et l'autre lui a sauté un couteau, puis.
Mais aujourd'hui, vous avez peur qu'il y ait représailles?
Moi, personnellement, je n'ai pas peur. J'ai foutu le camp et j'ai fait partir la moitié des gitans de Perpignan, je le dis partout, pour éviter une rixe générale. Bon, ils m'ont écouté.
Tant vous êtes parti aussi?
Ah oui, je suis parti avec mes gosses et mes enfants, un jour,
ça
à Montpellier. Et bon,
un jour seulement, juste après.
Oui,
quoi.
On est parti avec toi le matin, on est revenu le lendemain, le surlendemain, quoi. On a passé un jour à l'hôtel ou deux.
Mais Jean-Louis, c'est ce qui s'est passé après les événements. Il y a eu beaucoup de gitans qui sont partis un petit moment.
Oui, on peut dire que c'est par peur, mais c'est une peur qui est saine. Hein. Bon. C'est une peur qui est.
Plutôt pour les gars, pour les femmes et les gosses, mais pas pour nous les hommes. Nous les hommes, nous n'avions pas peur.
Il y a eu un sentiment de siège un peu. Il y a eu un sentiment de siège, alors qui est dû à la conformation du quartier. Il y a cette espèce de butte là, où vivent tous les gitans. Quand les populations maghrébines sont grosso modo sur le bas de la butte, il y avait tous les éléments constitutifs du siège. Quoi. Il y avait les gens qui étaient enfermés en haut dans la caserne, ce qu'on appelle la caserne, qui est un bâtiment HLM, une vieille caserne transformée à la place du Puitch, un bâtiment HLM. Et les autres éléments du siège, c'est qu'il y avait les casques bleus. Il y avait les forces de l'ordre qui étaient là, qui étaient censées éviter les mouvements de population entre les deux quartiers. Et donc, pendant une bonne semaine, il y avait vraiment, surtout, principalement après le deuxième meurtre, et toutes les interrogations qui ont été liées à l'identité du meurtrier, bon, tous les fantasmes qui ont couru là-dessus, les gens étaient assiégés. Personne n'a eu faim, mais il y avait un peu cette espèce de fantasme de l'enfermement, de l'isolement.
Alors, on a beaucoup lu après que tout ça, c'était les gitans contre les arabes contre les gitans, qu'il y avait comme deux camps qui allaient s'affronter.
Attention, quand on dit gitans contre arabes, pas tous. Juste ceux qui voulaient nous provoquer. Parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. C'est comme les gitans, des mauvais. Hein, bon, ça, c'est dans toutes les races, aussi les gitans que français, que tout ce que vous voulez. Il y a le bon et le mauvais.
Et le reste du temps, comment ça se passe? Vous, les Français d'origine gitane et les Français d'origine maghrébine, s'entendent bien ou pas?
Oui, normalement, on s'entendait très bien. D'ailleurs, on s'appelait Khoya, c'est ce qui signifie en arabe, mon frère. Ça signifie frère. Bon, et on se côtoyait bien quoi. Il n'y avait pas de problème. S'il y avait un problème entre gitane ou maghrébin, bon, ça s'arrange vite fait, quoi. C'était pas vraiment important, quoi. C'est comme ils ont dit à la police, les gitans sont privilégiés. Je me demande en quoi nous sommes privilégiés.
Voilà. Il y a quand même un truc fou, c'est que vous me dites que vous entendez bien et en même temps on sent qu'il y a quand même des jalousies aussi, il y a des petites tensions.
Il y a eu ça, maintenant il y a.
Ouais, ça a tout changé.
Une divergence, quoi. Il n'y a pas vraiment le même contact. On dit rien, on passe notre chemin. Si on nous dit bonjour, on dit bonjour, bonsoir, et puis basta, chacun pour soi. Voilà, c'est fini. Bon, il y a eu un mort, il y a eu des blessés, ils sont en prison, bon, ils vont payer leur peine, hein, bon, alors c'est fini. Mais non, au journal, c'est pas en télévision, ma chérie. Non, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis rien de mal, il faut se réconcilier. Je dis pas de faire la guerre, si c'était pour faire la guerre, je dis, non.
C'est quoi les numéros sur les portes?
Oui. Ah non, c'est les gosses.
C'est les gosses,
M, Myriam, 14 ans, M, Maddy, voilà.
Ils mettent leur âge avec la première lettre du prénom?
C'est comme là, vous voyez, voilà. Tisha, Mani, Paolo, voilà.
Ce soir, Perpignan ressemble à une forteresse assiégée. Pas moins de 1000 gendarmes mobiles, CRS, fonctionnaires de police de la ville prennent peu à peu position pour quadriller le centre de la cité catalane. Ils ont été rejoints par les policiers du GIPN, appelés en renfort. Au péage nord et sud de la ville, des contrôles d'identité sont en cours pour empêcher des groupes de casseurs extérieurs de rentrer en ville. Pour l'instant, le centre de Perpignan est calme. Des dizaines de jeunes maghrébins viennent devant le palais de justice chercher des informations auprès des journalistes sur le meurtre d'hier. L'enquête se poursuit, précisait tout à l'heure le procureur de la République. L'homme qui a tiré sur Driss Ghaïb hier soir a peut-être été filmé par une caméra de surveillance du quartier. Les policiers du SRPJ de Montpellier décortiquent encore toutes les images vidéo à la recherche d'un homme coiffé d'une casquette noire, d'un t-shirt noir et d'un jean, un homme qui se serait ensuite enfui à bord d'une voiture blanche. Devant le palais de justice de Perpignan, Vincent Rodriguez, France Inter.
Comment je marche, c'est tout, hein? Il faut la main, Jean. Il faut la main, Jean.
On est sur quelle place, là?
Du Puitch. La place du Puitch. Ouais.
Le lieu est levé. Le lieu est levé.
Son truc particulier, c'est ce bâtiment qu'on voit en face, qu'on appelle la caserne, hein, et qui était effectivement une ancienne caserne. Ici, on était dans un quartier qui était la garnison de Perpignan. Et ça, au début du siècle, c'était un régiment d'infanterie coloniale qui était là, et qui, quand l'armée a quitté ça, je pense, dans les années 30, à peu près, je crois que ça a été le premier HLM de France qui a été réhabilité dans un bâtiment existant.
Il y a combien de familles dedans ?
Beaucoup. Ouais. Il y a bien 1000 personnes.
C'est vraiment une grande façade rose avec des volets verts.
Ouais. De l'autre côté, on voit les remparts de l'ancienne ville. L'ancienne ville de Perpignan s'est arrêtée là. Tout à l'heure, un jeune passé disait « la guerre est finie ». En situation de danger, de peur, en tout cas de peur collective, c'est le lieu où on va refluer, on va se replier, comme dans une place forte. Hein.
La guerre est finie, dit un enfant qui passe, mais la guerre de qui contre qui et en quoi est-ce que ces deux meurtres qu'on vient de nous décrire ont un rapport avec ces deux groupes? Évidemment, tout le monde redoute le communautarisme, parce que le communautarisme, c'est l'essentialisation, c'est-à-dire que un gitan égale tous les gitans, un maghrébin égale tous les maghrébins. On a lutté toute l'histoire de notre pays, entre autres, mais on n'est pas les seuls. Nous avons lutté, mais c'est pas une lutte de quelques années, c'est une lutte sur des siècles pour échapper à cette essentialisation, à cette racialisation, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnicisation. Et c'est ce contre quoi nous avons à lutter. Nos ancêtres ont lutté, notre histoire a lutté contre ça pour inventer la citoyenneté qui fait que nous ne sommes pas. Il n'y a pas une race française. Il y a des citoyens français, parmi lesquels des gens d'origine gitane ou d'origine maghrébine. Et puis, par ailleurs, en dehors de cela, il y a eu deux crimes. Et il s'agit de disloquer, de détacher, de séparer ces éléments. Et c'est pas de la tarte. Hein ?
Ils discutent sur les commerces, sur le fait que les Arabes ils ont des commerces et eux ils n'en ont pas. Chaque communauté renvoie à l'autre des prétendus privilèges. Mais bon, il y a des fantasmes qui sont nourris depuis longtemps. Comme ce vieux fantasme qui dit que les gitans perçoivent plus d'allocations que ce à quoi ils ont droit. Par contre, ils perçoivent toutes les allocations auxquelles ils ont droit. Ça, c'est pas pareil. Savoir que un des principes de la société gitane, c'est que leur mariage n'est pas reconnu par l'État civil. Donc, du regard de la loi française, les femmes sont des filles mères. Les filles mères avec plusieurs enfants, évidemment, ça fait une collection d'allocations en masse qui est assez surprenante, mais c'est tout à fait illégal. C'est à partir de ça qu'on a beaucoup extrapolé, qu'on a dit que la mairie leur faisait toucher les allocations. C'est, techniquement, c'est impossible. Ils peuvent pas.
Donc, on a entendu bien plus que ça. Hein.
Plus que ça.
Des scooters,
des frigos, des. Il y a une mécanique clientéliste dans cette ville ancienne, à la technique suffisamment rodée pour n'être pas obligé de tomber dans des aberrations aussi évidentes. C'est bien plus sophistiqué que ça.
Ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à des emplois distribués parcimonieusement à des personnes clés, des personnes ressources qui contrôlent des familles, qui contrôlent le nombre d'électeurs. Ça ressemble à des choses comme ça.
Ça, c'est le père du maire actuel qui avait installé ça ?
Je dirais que c'est lui qui a hérité d'une communauté gitane à une époque en plein désarroi du fait des mutations dans la société qu'on évoquait tout à l'heure, qui avait perdu ses métiers traditionnels, sa place traditionnelle dans la société. Il y a répondu par distribution massive d'emplois plus ou moins justifiés. Donc il y a eu une espèce de municipalisation des chefs de famille qui a conduit donc à un contrôle de la communauté effectivement par l'administration municipale. Ça a été repris y compris par des opposants.
C'est tout le bruit que peut faire une trompette en plastique, hein, de la petite fille.
Et je crois que le maire actuel a hérité, moi je ne fais pas de procès d'intention là-dessus, je ne dis pas qu'il a créé, qu'il a profité, il a hérité d'un système qui est ce qu'il est. Sauf que le système a dégénéré. On a des taux ici, ça ressemblait à la Roumanie de Ceaușescu. Je veux dire que le candidat soutenu par la mairie, dans certains bureaux, pouvait avoisiner les 80% sans problème. Je pense que le système a dégénéré quand il y a eu un changement de population dans le quartier.
Bonjour. Vous voulez un reportage de Saint-Jacques?
Je ne suis pas la première. Hein.
Vous avez connu Saint-Jacques 25 ans en arrière, mademoiselle. C'était un village tranquille. Pia au bon passe. Il n'y avait pas plus que tranquille. Toutes les portes étaient ouvertes, madame. Les voisins se laissaient les portes de l'une à l'autre ouvertes. On avait confiance aux gamins. Monte-moi ça, le journal. Monte-moi mon porte-monnaie devant sur la table. Et le petit ne voulait pas ni un cent. Ou un centime à l'époque, on disait. Mais ce qui s'est passé, madame, que Perpignan, ça commençait à la rue du Sia, il y avait de la drogue. Les inspecteurs, le tribunal, les postes de police, et tout le monde a laissé pourrir. Tout le monde a laissé faire ce petit magouilleur. Ça rapportait, moi je peux vous le dire, ça rapportait à tout le monde un peu. Même les neveux maintenant vous volent, même les fils vous volent. Ils vous volent pas pour papa pour aller s'habiller, ils vous volent parce que c'est un cachet qu'il lui faut. Ce cachet, c'est la poudre. Cette poudre détruit Perpignan. Cette poudre a commencé 20 ans en arrière, détruit Perpignan. Si la loi et si les polices auraient fait son travail honnêtement avec cette rue Lucia, Perpignan serait comme un petit village, comme 30 ans en arrière, madame. Avant, c'était l'argent, c'était les affaires, c'était les bonnes places, c'était de réussir à avoir des banques. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est ce fléau qui tue tout le monde, c'est la drogue. Cette drogue détruit, détruit et détruira toujours. S'ils ne font pas une croix sur cette drogue, parce que croyez-moi, moi j'ai vu des enfants de 15 ans se piquer. J'ai vu des grands-pères pleurer un coup qu'ils étaient piqués. Et j'ai dit, pourquoi tu pleures? Parce que j'ai volé les pendants de ma petite fille pour aller m'acheter ma dose. J'ai volé les pendants de ma petite fille qui dormait à la maison pour acheter ma dose. Je ne sais pas si vous entendez ce qui s'est grave déjà.
C'est ce qui s'est passé, Georges, la drogue qui s'est implantée là dans les années 80 et qui n'a jamais été éradiquée, on n'a pas cherché.
Ça a changé toute la sociologie du quartier, ça a changé parce que ça a déstructuré les rapports dans la communauté. Allez, aux journettes.
Au revoir.
Ça a changé tous les rapports qu'il y avait, les rapports hiérarchiques et les rapports patriarcaux qu'il y avait dans la communauté gitane. La drogue, elle a atteint prioritairement bien sûr les jeunes qui sont retrouvés avec des besoins financiers énormes et donc sans autre alternative que de tomber dans la délinquance, dans le vol, et y compris ils sont arrivés à un niveau de dépendance très rapide, très brutal. Moi j'ai vu un grand-père dans la rue abasourdi parce que son fils venait de lui piquer le magnétoscope. Hein. Pour le revendre. C'est quelque chose qui aurait été absolument impensable 15 ans avant. Quoi. C'était un sacrilège. C'était un sacrilège dans la tradition gitane. Ces deux meurtres, ils ont été le révélateur d'un malaise qui est en solution depuis longtemps. Moi, je vois là-dedans aucune connotation ethnique ni raciale. Enfin, on a un peu dit n'importe quoi là-dessus. Mais ça a touché la communauté maghrébine comme victime, ça aurait pu être absolument n'importe qui. Il ne faut pas donner ce qui est... L'événement lui-même est un événement mineur, c'est son emballement qui est devenu disproportionné. Le problème aujourd'hui ne se pose pas en termes ethniques, c'est un quartier qui est vraiment massacré par la crise. Et c'est un quartier surtout, de mon point de vue, moi je le vois comme ça, dont l'État s'est désintéressé depuis 40 ans. Au profit, je pense, de la mairie de Perpignan, qui s'est substituée à l'État, elle savait pourquoi elle le faisait, comme ça elle mettait un coup pour réguler le quartier, et elle a pris en charge, à sa manière, avec ses moyens, qui ne sont pas ceux de l'État, des prérogatives qui appartiennent normalement à l'État. L'éducation, la police, et tout ce qui porte le mot de national, dans le quartier, c'est en crise. Police nationale, elle a un commissariat que tout le monde appelle le supermarché parce qu'il est fermé à 6 ans. Tout ce qui est intégrateur dans la société française ici a été abandonné.
Désengagement de l'État, chômage avec des taux exorbitants. On parlait aussi du sida tout à l'heure, apparemment, amené par la drogue, oui, qui était très bien implantée ici. Déscolarisation des enfants. C'est ça un peu le mélange qui a amené cette situation de crise.
Bien sûr. Et un niveau de précarité sanitaire qui est accablant. et culturelle, misère culturelle. Et ici, historiquement, c'est le quartier des ouvriers. C'est le quartier des ouvriers, des paysans, des prolétaires. C'est le quartier des sous-prolétaires de Perpignan. Et ça le reste aujourd'hui de la même manière. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que ces sous-prolétaires d'aujourd'hui ne travaillent plus pour les autres. Regardez cette place, c'est la place du Pitch. Regardez autour de nous, il y a une épicerie qui est tenue par Jamel. Jamel qui est un garçon étonnant parce que son père s'appelle Jamel Kargol Al-Khaled. Sa mère est gitane, son père est maghrébin. Alors, c'est pas d'aujourd'hui les couples mixtes, c'est pas d'aujourd'hui la mixité dans le quartier. Ça existe depuis très longtemps. Mais il y a lui et une pharmacie qui tient, je ne sais pas par quel miracle. Voilà.
Sur une place immense, hein, parce qu'on ne la voit pas, mais elle est grande.
Cette place. Une place importante qui était un vrai lieu de vie. Quoi.
Demain, on se retrouve sur cette place à Perpignan. Merci à tous, c'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Jean-Louis Olive, maître de conférence en sociologie à l'Université de Perpignan, à Georges Bartoli, à Blanco, Alicia, à Pitou, et merci à tous les habitants de Perpignan, du quartier Saint-Jacques et du Puiche. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, un livre intéressant, le livre des Gitans de Perpignan, sous la direction de Bernard Leblon, aux éditions L'Armatan. C'est un livre qui a déjà quelques années, mais qui est très intéressant. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Michel Thomas, l'équipe de là-bas. Si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de là-bas. Si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37, et le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Dans une minute, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari, et nous, demain, on se retrouve à Perpignan. À demain, salut.